Les entretiens d'Accent 4.
Bonjour Christophe Lauten.
Bonjour.
Vous êtes compositeur, auteur d'opéra, de messes, symphonies, concertos et quatuors à cordes. Vous êtes également un spécialiste de la musique allemande de la deuxième moitié du 19e siècle. À ce titre, Actes Sud publie un ouvrage, Brahms par ses lettres, que vous avez traduite et commentée. Quelles ont été les raisons de votre intérêt pour la correspondance de Johannes Brahms ?
Oh, elles sont multiples, mes raisons. La première serait sans doute que Brahms est un compositeur célébrissime, joué dans le monde entier. C'est vraiment un des compositeurs probablement le plus joué au monde. Et donc ça, ce serait la raison importante. La deuxième raison, c'est qu'il a écrit quelque chose comme 7000 lettres, lesquelles n'ont jamais été traduites en français et sont à peine éditées en allemand, c'est-à-dire que les éditions de ces lettres sont du début du XXe siècle. Donc ce ne sont pas des éditions scientifiques, ce qu'on appelle les éditions scientifiques, ce sont des éditions récentes qui ont un appareil critique. Là, ce sont des éditions donc qui ont été faites en Allemagne dans les années 1910 et qui sont simplement en rang le texte, voire même avec des coupures, sans aucun travail sur le texte même, sur les sources même. Donc il y avait une espèce de trésor, là, de 7000 lettres, que je trouvais intéressante d'offrir au public français.
Vous en avez sélectionné quelques centaines en les regroupant par chapitre, on va y revenir. Dans un avant-propos, vous soulignez que la correspondance de Brahms constitue une sorte de continent encore inconnu. Brahms, en définitive, n'en serait-il pas le premier responsable, notamment par son écriture manuscrite et par son style ?
Alors, c'est une très bonne question. On ne peut pas lui reprocher son écriture manuscrite. Comme je le dis dans ma préface, il écrit avec un alphabet qu'on appelle Kurzschrift en allemand, qui est l'alphabet qu'il a appris à l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai très bien souvenir d'avoir appris à l'école à faire des A, des O, des I, que me montrait la maîtresse. Il fallait que j'imite ça. Et lui, ça a été la même chose, à part que c'était donc cette Kurzschrift, donc c'est un alphabet que les Allemands ont mis au point et qui correspond à l'écriture gothique, le gothique étant une écriture imprimée, tandis que le Kurzschrift est l'équivalent, mais manuscrit. Alors c'est très embêtant, parce que plus grand monde n'arrive à lire ça aujourd'hui, puisque pour vous donner une idée, les lettres ne correspondent pas du tout à l'alphabet latin que nous utilisons. Par exemple, le S ressemble à un H, le R et le E sont très peu distinguables, donc il faut être très habitué à lire cette écriture-là pour pouvoir la déchiffrer. Et je peux vous dire que j'ai soumis des textes à des amis allemands que j'ai, et aujourd'hui, alors que la Kurzschrift évidemment n'est plus du tout enseignée, plus personne ne sait lire ça, même les Allemands. Quant au style, Brahms a écrit donc de très nombreuses lettres, mais toutes ces lettres sont, à part peut-être certaines missives de jeunesse, toutes ces lettres sont des lettres très brèves qui vont directement au but. C'est-à-dire que ce sont, j'aurais dû appeler mon livre, au lieu de Brahms par ses lettres, on aurait dû appeler ça les mails de Johannes Brahms, ça aurait été plus proche encore de la nature des textes. Donc ce sont des textes très courts, exactement comparables à ceux que nous écrivons nous aujourd'hui, justement par mail, c'est-à-dire on apporte une réponse à une question, je viens, je viens pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Et Brahms fait exactement la même chose, simplement il le fait par écrit. D'ailleurs il utilisait tour à tour ou du papier à lettres, et à ce moment-là on voit dans les lettres, plusieurs lettres que j'ai traduites, on voit que quand il arrive à la fin de la feuille, il dit « mais je ne vais pas commencer une nouvelle feuille maintenant pour continuer, donc je m'arrête ». Donc il y avait un côté matériel, ou alors il utilisait ce qu'on appelait des cartes de correspondance, c'est-à-dire on en trouve encore en reproduction, c'est-à-dire des cartes sur lesquelles il y avait un tout petit espace pour écrire, et le verso était consacré à l'adresse du correspondant. Donc l'équivalent de carte postale, à part qu'il n'y avait pas de photo, c'était juste une carte recto verso.
D'ailleurs, vous employez la formule « Brahms téléphonait par écrit ».
Voilà, oui, exactement. Mais depuis que j'ai employé cette formule-là, l'idée du mail me semble encore plus proche. Oui, c'est vrai que le livre aurait pu s'appeler « Brahms et le téléphone ». C'est-à-dire que je trouve que nous avons là les coups de téléphone que Brahms passe à tous ses amis, à tous ses correspondants. Encore une fois, cette similitude trouve sa source dans la brièveté du propos toujours, la simplicité du style employé, parce que c'est un style, enfin il n'y a pas de style en fait, il écrit comme il parle, c'est-à-dire un allemand direct, pas, comment pourrais-je dire ça, c'est pas un allemand poétique, et il matine ses paroles d'expressions qui sont quelquefois populaires, voire même dialectales. Donc, vous voyez, ce sont des lettres qui n'étaient visiblement pas destinées dans son esprit, et il a tout fait pour que cela n'arrive pas. Donc, ces lettres n'étaient pas destinées à être lues par d'autres gens que leur destinataire.
Est-ce que c'est par pudeur qu'il ne s'est penché pas dans sa correspondance ?
Ah, alors c'est une très bonne question, puisque donc la correspondance montre aussi bien par ses présences que par ses absences. Je m'explique. Quand une lettre témoigne d'un souci d'éviter un sujet ou au contraire de l'exploitation des sujets, les deux phénomènes sont également parlants. C'est ça qui est très intéressant dans l'étude de lettres, c'est que ce qui n'y est pas importe autant que ce qui y est. Donc les lettres de Brahms, eh bien Brahms craignait qu'on puisse s'en servir. Par exemple, il l'a mis en place avec Clara Schumann, qui était donc sa grande amie et avec laquelle il a échangé des centaines de lettres. Il avait mis en place un système, enfin Clara était censée lui renvoyer les lettres que lui avait écrites et lui renvoyer les lettres ou détruire les lettres que Clara lui avait écrites. Alors Brahms a détruit beaucoup de lettres de Clara à lui-même, et quant à Clara, eh bien quand elle s'y est mise, elle s'est mise à relire les lettres, qu'il ne faut jamais faire. Quand on veut détruire des lettres, il ne faut surtout pas se mettre à les relire, parce que sinon on ne les détruit plus. C'est ce qui est arrivé. Clara a commencé à relire les lettres de Brahms, et puis elle s'est dit « Oh, celle-là, je ne peux pas la détruire. Oh, celle-là, j'aimerais bien la garder. » Bref, nous avons comme ça une partie des lettres de Brahms à Clara qui ont été sauvegardées du feu.
C'est d'ailleurs dans les lettres qu'il adresse à Clara qu'il écrit avec beaucoup de tendresse. En 1854, il écrit « Chère madame » et il la vous voit. Et 2 ans plus tard, il lui écrit « J'aimerais pouvoir t'écrire avec une tendresse égale à mon amour pour toi. Oui. » On peut peut-être comprendre la raison pour laquelle il ne souhaitait pas que ces lettres soient lues par d'autres.
Non, bien sûr. Alors, il y a plusieurs remarques à faire à ce sujet-là. D'abord, il faut savoir que c'est comme ça encore aujourd'hui, mais les Allemands sont beaucoup moins à cheval. Ben, vous qui êtes dans votre région, vous êtes bien placé pour le savoir. Les Allemands sont beaucoup moins à cheval que nous sur les questions du vouvoiement et du tutoiement. En France, on a pas mal de difficultés à passer d'un vouvoiement à un tutoiement. Il faut vraiment que quelque chose se passe. Alors qu'en Allemagne, pas du tout. Le tutoiement est une façon de parler tout à fait normale entre deux personnes d'un âge plus ou moins similaire ou d'une position sociale comparable. Donc, ils sont beaucoup moins à cheval que nous là-dessus. Et dans certaines lettres, Brahms, de façon assez inexplicable pour un Français, il faut bien le reconnaître, Brahms voussoie et tutoie Clara de façon indifférenciée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui l'amène à tout à coup à la tutoyer, on ne sait pas. Et puis, dans la phrase suivante, il peut revenir au voussoiement. Enfin, c'est très étrange. Ce qui correspond bien à l'idée que ce sont des conversations, ces lettres. Ce sont des conversations, donc il parle exactement comme s'il s'exprimait au téléphone.
Cette correspondance bien traduit la vie quotidienne de Brahms, mais elle est aussi, et c'est peut-être là l'essentiel, c'est une image de la vie musicale à la fin du 19e siècle.
Oui, alors ça c'est un aspect que j'ai découvert en travaillant sur la correspondance de Brahms. Parce qu'encore une fois, moi je ne l'avais jamais lu, j'avais une quinzaine de volumes de l'édition donc du début du XXe siècle, que j'avais ouvert de temps en temps sur une ou deux lettres, mais j'avais jamais vraiment lu beaucoup de lettres de Brahms, donc j'en ai lu beaucoup, et je me suis aperçu qu'elles se renvoyaient quasiment les unes aux autres. C'est-à-dire qu'elles ont été éditées au début du XXe, elles ont été éditées selon le correspondant, c'est-à-dire qu'on a un volume de lettres, plusieurs volumes de lettres à un tel. Puis ensuite, le volume suivant, c'est à une autre personne. Donc les lettres ont été éditées comme ça, donc pas du tout de façon globalement chronologique. Et puis bien sûr, ce sont les lettres de Brahms seulement, on n'a pas les réponses. Et donc, en lisant ces lettres, je me suis aperçu qu'elles rebondissaient, qu'elles créaient des espèces de courants thématiques, sachant que Brahms abordait avec un correspondant un sujet, et puis ce sujet allait se retrouver dans d'autres lettres, et puis aussi probablement adressé à d'autres correspondants. C'est cela qui m'a donné l'idée de faire mon livre, non pas sur le plan chronologique, mais de regrouper les lettres que j'ai choisies selon une quinzaine de thématiques, parce que, donc ça c'était la découverte principale de cette correspondance, c'est que Brahms parle beaucoup de ce qui se passe sur le plan musical à l'époque dans son pays, donc en Allemagne et en Autriche. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'il se passe à partir de 1850 dans les pays germaniques, il se passe quelque chose de très important pour nous les musiciens, c'est une sorte de naissance de la musicologie, puisqu'on joue de la musique contemporaine, mais on redécouvre la musique dite, entre guillemets, ancienne, c'est-à-dire on redécouvre Bach, on redécouvre Handel, on redécouvre Couperin, enfin tous ces compositeurs qui, au XIXe siècle, sont quasiment oubliés. Bien sûr, Bach n'est pas totalement oublié, mais on ne sait plus comment jouer une cantate de Bach, on ne sait plus... Par exemple, Brahms a dirigé Saül, un oratorio de Handel. Bon, il a dû écrire une partie d'orgue pour l'accompagnement, ce qui aujourd'hui, évidemment, n'est plus du tout nécessaire, puisque tous nos musiciens savent réaliser une basse continue. Mais à l'époque, c'était pas évident. Et tout cela, Brahms en parle, et on discute avec les grands musicologues de l'époque, qui s'appelaient Spitta ou Chrysander, qui étaient tous ses amis. Et donc, ça nous donne cette lettre, non seulement nous parle de Brahms, l'homme et le compositeur, mais aussi elle nous permet de nous rendre compte de l'ébullition musicale et musicologique de l'Allemagne de la fin du 19e.
Alors, votre livre, vous l'avez dit, les lettres sont regroupées en 15 chapitres qui vont de Brahms à ses œuvres, à Brahms et la mort, mais il y a aussi une des premières lettres qui date de Noël 1846 et qu'il adresse à ses parents, et la dernière qui date du 29 mars 1897 qu'il adresse à Caroline Brahms, qui était l'épouse de son père.
Oui, c'était sa belle-mère, c'était la deuxième épouse de son père.
Et il écrit le 29 mars, « N'aie aucune crainte, rien n'a changé, comme d'habitude, tout ce dont j'ai besoin, c'est de patience », et il meurt quelques jours après.
À la fin de Brahms, ça a été triste, dans la mesure où il avait probablement un cancer de l'estomac, qui ou n'a pas été détecté, ou en tout cas lui a été caché. C'est-à-dire que les médecins et les amis de Brahms lui ont fait croire qu'il avait une jaundice. Et Brahms a cru, évidemment, donc il s'est dit, bon, ben, j'ai une jaunisse. Il écrit dans plusieurs lettres, ma jaunisse refuse de me quitter. Et donc, bon, il ne s'est pas vraiment soigné, mais je ne sais pas ce que la médecine de l'époque pouvait lui offrir qui aurait soulagé ses douleurs. Bref, il s'est dirigé comme ça vers la mort, en ne sachant pas du tout qu'il allait mourir, parce que donc c'était une jaunisse dans son esprit. Et puis, bien entendu, il s'est mis à souffrir beaucoup, et il est mort dans d'assez grandes souffrances, ignorant toujours qu'elle était la cause de sa mort.
Et puis, vous avez cité Strasbourg, on peut citer deux destinataires qui ont une certaine importance. Vous citez Julius Stockhausen, dont le frère Franz était directeur du conservatoire, et puis Philipp Spitta, dont le frère était professeur à l'université de Strasbourg. Vous, Christophe Lutten, en tant que compositeur, on est toujours le fruit d'un passé musical. Qu'est-ce que Brahms vous a apporté à vous en tant que compositeur ?
La réponse à cette question pourrait être longue. Pour ne rien vous cacher, musicalement, je suis plutôt wagnérien que brahmsien. Non pas sur le plan du style, bien sûr, mais sur le plan de la conception générale de la musique. Néanmoins, il y a des choses que je trouve absolument fascinantes dans la musique de Brahms. C'est la maîtrise incroyable de la forme. On dit que Brahms avait de son vivant la réputation d'être un conservateur, ce qui n'est pas exact, mais c'est une réputation qu'il doit à ses ennemis qui étaient wagnériens. Donc comme il n'était pas wagnérien, il était conservateur. Donc c'est inexact. Et ce qu'on peut sans doute encore aujourd'hui, ou du moins ce qu'un compositeur vivant aujourd'hui peut encore admirer chez Brahms, c'est le sens de la forme, donc la forme de tout un mouvement ou de toute une œuvre. Et puis aussi la haute technicité de son métier de compositeur. C'est-à-dire que Brahms a une plume qui se plonge dans l'encre de Bach, et qui n'est pas indigne de cet exemple-là. Je fais par exemple allusion au contrepoint, à la maîtrise absolue du contrepoint chez Brahms. Le contrepoint, c'est la façon d'écrire à plusieurs voix qui vont être entendues ensemble, et justement le raffinement du contrepoint consiste à faire passer par exemple la voix du dessous bien en bas la main, faire passer au milieu, la voix du dessus, on va la faire passer tout en bas, etc. Ça c'est le contrepoint, et Brahms est un maître absolu dans ça. Il suffit d'écouter n'importe quelle œuvre un peu importante de lui, ne serait-ce que par exemple le dernier mouvement de la 4e symphonie, pour s'apercevoir que c'est une source de richesse incroyable, et en même temps, ces œuvres-là sont elles-mêmes des échos du passé et de la culture musicale que Brahms avait en lui.
Puis on n'oublie pas que Schoenberg admirait Brahms et a écrit de très beaux textes.
Oui, bah Schoenberg avait raison. Bon, l'article de Schoenberg, évidemment, est un article avant tout plutôt anti-wagnérien, dans la mesure où, à l'époque encore de Schoenberg, on disait que Wagner était moderne et que Brahms était ancien, en tout cas archaïque. Donc Schoenberg écrit son article pour aller la contre, mais il a tout à fait raison. Je ne suis pas sûr qu'il ait admiré ce qu'il fallait vraiment admirer chez Brahms. Mais on se rend bien compte, et ça aussi c'est une leçon pour nous aujourd'hui, à l'époque de Facebook, on se rend bien compte que toutes les opinions que nous avons sur ces deux messieurs, donc Wagner et Brahms, sont des opinions qui nous ont été transmises par des gens qui n'étaient pas vraiment au courant et surtout qui n'avaient pas l'âme pure. C'est-à-dire que ce sont des opinions toutes faites que l'on transmet de livre en livre, de génération en génération, mais qui sont infondées. Donc dire que Brahms est un conservateur, ce n'est pas exact. Tous les musicologues répètent ça, tous les gens qui écrivent des articles ou des vies de Brahms répètent ça, mais si on regarde les textes, c'est inexact.
Bien, merci beaucoup Christophe Louten, je rappelle donc la publication par Actes Sud de ce livre Brahms par ses lettres, un ouvrage bien essentiel pour tous les Brahmsiens et pour tous ceux qui s'intéressent à la musique. Merci.
Merci à vous.